France Musique. Les premiers pas sur la Lune. Le 20 juillet 1969, en direct de Mondovision, le monde entier observe le premier homme poser le pied sur la Lune. Puis 19 minutes après sa descente, le commandant d'Apollo 11, Neil Armstrong, est rejoint par son copilote Buzz Aldrin. Il se photographie et contrairement aux images filmées, les clichés sont en couleur. Pendant que Michael Collins assure la garde du module de commande, Armstrong dirige la mission et pilote le module lunaire. Il a été choisi car il est un ancien pilote vétéran de la guerre de Corée, pilote d'essai d'avions-fusées et technicien expérimenté des missions spatiales. Aldrin est plus spécifiquement chargé du déploiement du matériel scientifique. Les deux hommes restent 2 heures et 20 minutes sur la Lune afin de collecter des matériaux lunaires qui doivent être analysés sur Terre. 384 kilos de roches sont alors rapportés de la Lune. Les astronautes posent une plaque commémorative, photographient les environs, leurs marques de pas, et Armstrong photographie Aldrin dans son costume d'astronaute. À 300 000 kilomètres de la Terre, Neil Armstrong prononce en posant son pied sur la Lune « Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ». Puis il dépose son rameau d'olivier en or, symbole de paix et de victoire. La mission Apollo 11 de la NASA est une réussite totale. 3 jours après l'alunissage du module Eagle sur la mer de la Tranquillité, Richard Nixon, alors président des États-Unis, accueille les héros dans le Pacifique à bord du porte-avions Hornet. Cet épisode de la conquête spatiale conclut 10 ans de rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique dans un contexte de guerre froide. Le président américain qui a accédé à la Maison-Blanche 6 mois plus tôt tire alors habilement profit d'un projet lancé en fanfare par John Kennedy en 1961. Lors d'un discours prononcé à l'université Rice à Houston, ce dernier déclare « We choose to go to the moon », littéralement « Nous choisissons d'aller sur la Lune ». Washington veut contrer à tout prix les ambitions de l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev. À la tête de l'URSS depuis la mort de Staline, le volontarisme de Khrouchtchev et son activisme sur le plan international sont servis par les succès soviétiques dans la conquête spatiale. Prenant de vitesse les Américains, les Soviétiques envoient Sputnik, le premier satellite en orbite, le 4 octobre 1957. Le premier être vivant dans l'espace, avec la chienne Laïka le 3 novembre 1957, et la première fusée sur la Lune en 1959. Enfin, le premier homme dans l'espace, Youri Alexei Gagarin, en 1961. Sans la guerre froide, l'homme n'aurait pas marché sur la Lune. C'est elle qui a contribué à une formidable poussée technologique, confie Thomas Stafford, l'astronaute et commandant de bord d'Apollo 10 lors de la répétition générale. Des moyens exceptionnels sont alors mis à la disposition de la NASA qui procède par essais successifs et finit par tenter l'alunissage à la 11e mission Apollo. Derrière la rivalité américano-soviétique se cachent 2 destins exceptionnels et mouvementés, ceux de Wernher von Braun et de Sergueï Korolev. Le premier est l'un des pères des missiles balistiques V2 développés par l'Allemagne nazie. Le second est ingénieur et fondateur du programme spatial soviétique. Von Braun est discrètement exfiltré d'Allemagne en 1945 par les services spéciaux américains. Il prend la nationalité américaine en 1955 et devient administrateur général de la NASA en 1970. Les nombreux déboires des premières fusées américaines, Redstone lui valent le titre de gentil nazi, décerné par des humoristes yankees sans pitié. Korolev, quant à lui, reste pendant 30 ans inconnu du public par la volonté du KGB. Envoyé au goulag pendant la Grande Purge de 1938, il a la mâchoire fracassée par ses tortionnaires. Pendant toute leur vie, ces 2 visionnaires obstinés doivent assumer des échecs dramatiques, comme la mort des 3 astronautes d'Apollo 1, carbonisés au cours d'un essai au sol, Ils doivent également batailler ferme contre des administrations tatillonnes et des militaires paranoïaques, en permanence au bord de la crise de nerfs du fait de l'engagement militaire au Vietnam. En voyant la Terre rapetisser au loin à travers son hublot, Tom Stafford, le commandant de la mission Apollo 10, envoie une requête malicieuse au contrôleur de la mission, au centre de la NASA à Houston. Son vaisseau est le premier à être équipé d'une caméra en couleur qui transmet ses images en direct à des millions de personnes restées sur Terre. Il leur demande alors « Pourriez-vous appeler Londres et dire au président de la Société de la Terre plate qu'il a tort ?» Les membres de la Société de la Terre plate, ou Flat Earth Society, croient en effet que la Terre est plate. À ombre ronde, Terre ronde. Avant même d'être conquise, la Lune a toujours exercé un fascinant pouvoir d'attraction sur l'homme. Mystérieuse, elle peut avoir plusieurs connotations, symbole de l'amour, de l'âme, de la fertilité, mais aussi du changement et de la mort. Le penseur grec Lucien de Samosate est au IIIe siècle après Jésus-Christ le premier à raconter un voyage sur la Lune. Il marque ainsi le début d'une longue lignée de récits fantastiques, allant de Dante à Edmond Rostand, en passant par Jules Verne. Cyrano de Bergerac et Jules Verne sont parmi les premiers à imaginer y transporter l'homme. Le cinéma fait aussi son voyage dans la Lune et Georges Méliès en fait son long métrage emblématique en 1902. Que dire alors des paroles du poète Paul Verlaine, source d'inspiration des compositeurs ? Un calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau. Mais la lune a sans doute sa propre mélodie. Du rêve à la réalité, les Américains l'ont fait. Ils ont tutoyé les étoiles. La mission Apollo 11 représente un sommet pour le programme spatial américain. Les États-Unis remportent ce jour-là le défi lancé aux Soviétiques. Pendant quelques jours, en juillet 1969, le monde oublie tout pour se tourner vers la Lune. La NASA a fait tout son possible pour que ce vol symbolique soit une réussite, aussi bien sur le plan technique que sur le plan médiatique. Mais Apollo est d'abord un programme civil. Si les militaires souhaitent obtenir la direction de l'ensemble des activités spatiales, ils se confrontent aux techniciens de la NASA. Il ne s'agit pas à leurs yeux seulement d'un programme politique, mais avant tout d'un outil scientifique. C'est alors seul l'État qui peut garantir le suivi du projet. En dépit des changements de gouvernement et des orientations politiques, malgré l'évolution de la situation nationale et internationale, Apollo, programme civil, a pu se poursuivre pendant près de 10 ans et atteindre tous ses objectifs dans le budget et les délais fixés. L'émulation créée par la rivalité soviétique au cœur de la guerre froide n'existe plus. La course à l'espace n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais l'homme ne cesse de tourner son regard vers les étoiles, comme une éternelle envie de croire dans un au-delà. Alors, sans doute poserons-nous bientôt un rameau d'olivier sur la planète Mars. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.
À réécouter sur francemusique.fr.